Pierre-Yves Soucy est poète, essayiste, docteur en sciences sociales de l'Université de Bruxelles. Il est également attaché à la recherche à la Bibliothèque royale à Bruxelles et responsable de la section de poésie et de littérature étrangère au Centre international d'études poétiques, aux archives et musées de la littérature. De 1998 à 2001, il a occupé la chaire Roland Barthes à l'Université nationale de Mexico, la UNAM, co-directeur des éditions La Lettre volée, directeur des éditions Le Cormier à Bruxelles et directeur de la revue de création et d'essai L'étrangère qu'il a fondée. Il a publié une quinzaine de recueils de poésie, il est traduit en plusieurs langues. Dans ses derniers titres publiés, on note « Après la montée du jour », paru aux éditions Le Cormier en 2007, « Fragments de saison » à l'Hexagone en 2008, « Le jour devancé », »,« La montagne froide » en 2009. Je me souviens qu'on s'était rencontré une première fois autour d'un numéro spécial de la revue du Centre international d'études poétiques qui avait préparé un numéro sur la modernité québécoise et une réflexion du refus global à maintenant. Donc, Pierre-Yves Soucy va nous parler de Fantômas, de Cobra et de plusieurs choses.
Bien, je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre pour le plaisir qu'ils nous ont pu donner à travailler sur une communication qui touche de plein fouet, en réalité, l'œuvre de François Jacquemin, qui est plus ou moins connue. Et le groupe Fantômas, qui s'écrit avec un PH et non pas avec un F. Et c'était important pour les organisateurs. Mais je voudrais dire d'abord que je suis un Belge qui est né à Mont-Laurier, Québec. Et donc, c'est un peu singulier où je suis un Québécois qui a vécu pendant une bonne période à Bruxelles. Mais pas seulement qu'à Bruxelles, un peu partout, à Dublin, deux ans. Les deux dernières années, et puis maintenant Mexico, après un séjour de 3 ans à Mexico à la fin des années 90, début des années 2000. Bref, la communication que j'ai préparée concerne, je dirais, en marge, je l'ai intitulée, j'ai indiqué en sous-titre, En marge du surréalisme au cœur de la Belgique sauvage. Je reviendrai sur l'idée de Belgique sauvage pour une raison qui est absolument évidente pour moi, mais qui n'est pas évidente pour tous, c'est que la revue Fantômas avait préparé un numéro il y a déjà de nombreuses années, je donnerai un peu la chronologie tout à l'heure, sur la Belgique sauvage. Et la Belgique sauvage, c'était quoi? En gros, si on résume très rapidement, c'était les mouvements surréalistes dans les années 50, dans les années 60 encore. C'était des tendances plus ou moins exprimées à travers des publications comme Le Temps mêlé, qui était dirigé par André Blavier, l'auteur de Les Fous littéraires. Et c'était également, bien sûr, la revue Fantômas et le groupe Fantômas. Et puis, c'était aussi, ça pouvait être aussi une maison d'édition qui représentait tout un esprit de la création littéraire et poétique en Belgique francophone, qui était le Délibule. On retrouve encore une fois, je dirais, des noms comme d'autres mondes, mais on retrouve également Alechinski, on retrouve Paul Bury, on retrouve André Balthazar, qui en était le directeur, et on pourrait nommer toute une série de personnes qui faisaient partie du Délibule. Bref, je ne voudrais pas revenir sur tous ces aspects-là, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour dire ce que je voudrais dire. J'ai mis en exergue quelque chose qui provient du groupe Fantômas, mais qui ne m'a pas permis de vraiment le situer. C'est un mot, possiblement de Théodore Koenig, qui était un des animateurs, et je dirais même la cheville ouvrière, comme le dit Jacquemin quelque part, de la revue Fantômas et du groupe Fantômas. Il écrivait ceci dans son histoire de la peinture à la revue chez Fantômas. Des gens qui sont ces gens, des gens sans boussole qui ne se perdent jamais. Alors, ça résume assez bien l'intention de ce groupe. Mais d'abord, je voudrais faire quelques remarques préliminaires. Ici, mon intention n'est pas de revisiter le surréalisme pour proprement parler, mais bien d'essayer d'indiquer de quelle manière ce surréalisme belge et européen s'est diffusé, a contaminé, a irradié en définitive l'ensemble de la création littéraire et artistique durant toute la période qui va de la je dirais, d'après-guerre, des années 50 jusqu'à maintenant. Et j'ai pris comme exemple l'œuvre de François Jacquemin et le groupe Fantomas, parce que Jacquemin et Fantomas, bien sûr, ont fréquenté abondamment ces auteurs du surréalisme belge, qui est un surréalisme assez singulier, il faut dire. Et il faut rappeler la chose suivante, c'est-à-dire que ça fait toujours penser à ce mot du poète irlandais William Butler Yeats, lorsqu'il disait « The center cannot hold », les centres ne tiennent plus. Ça voulait dire quelque chose en 1923, ce qui avait été rappelé d'ailleurs par un journaliste lors de la remise du prix Nobel à Derek Walcott en 92 ou 93. Les centres ne tiennent plus, c'est-à-dire que Paris n'est pas nécessairement un centre. C'est un centre. À cette époque, c'était sans doute un centre, mais il se trouve, mais ce n'est pas par hasard, que le surréalisme belge naît dans les années 20 et que la première revue surréaliste belge, elle est créée à Bruxelles par Paul Nouget, qui est quelqu'un qu'on a tendance à oublier beaucoup, mais qui était un des personnages les plus fabuleux en tant qu'auteur, mais en tant que penseur, et par Goumans, Camille Goumans, et par Marcel Lecomte. C'est en 1924, c'est en novembre 1924 que paraît les premiers pamphlets de correspondance. Et donc, on est exactement, je voudrais, sur le même paramètre, mais dans des logiques ou dans des perspectives qui seront, je l'indiquerai tout à l'heure, assez différentes que la dynamique dans laquelle va s'inscrire le surréalisme français à travers la figure de Breton. Une remarque en passant par rapport aux communications qui ont été faites précédemment, et j'insiste beaucoup là-dessus, quand on parle de surréalisme, il y a une centralité autour de la personnalité de Breton, je veux bien, mais ça s'est diffusé d'une manière telle que même Éluard, à la limite, je ne suis pas tenté de le considérer comme étant un poète surréaliste dans beaucoup de ses œuvres, par exemple. Bien. Et on pourrait dire la même chose pour ce qui concerne Aragon. Et concernant les perspectives politiques, tous ces gens-là se sont tirés à un moment ou à un autre dans les pattes. C'est-à-dire que la cohésion ou la cohérence n'était jamais évidente. Alors que dans le surréalisme belge, quand on regarde la dynamique qu'initie Nouget à partir de 1923-1924, Goumans et Lecomte, on sent, je dirais, qu'il y a là à la fois une dynamique qui est collective, et là il faudrait faire des rapports entre, d'une part, le romantisme, et en particulier toute la pensée romantique allemande de la fin du 18e, début du 19e, pour montrer comment il y avait une tentative de vouloir créer collectivement, et que cet enjeu de la création collective devient un véritable enjeu de la création littéraire et artistique. Bien. Mais bon, j'ai pas le temps d'insister sur ces aspects-là. C'est important de le noter parce que ce qui est intéressant de voir avec Fantomas, et on va y venir assez rapidement, c'est que précisément la création collective est posée comme problème, comme elle avait été posée comme problème à travers les mouvements surréalistes belges, puisque j'ai parlé uniquement tout à l'heure, à l'instant, de Goumans, Nouget et Lecomte, qui est le groupe surréaliste de Bruxelles, qui va bien sûr s'engrosser par la suite avec des auteurs extrêmement important comme Louis Kuttner, qu'on oublie aussi assez souvent, mais également avec Marianne, qui est elle un des plus jeunes, jusqu'à j'ai un blanc de mémoire, je le nommerai tout à l'heure, et qui est décédé tout récemment, enfin assez récemment en définitive, Tom Goethe, voilà. Et donc ce surréalisme de Bruxelles, c'est une chose, le surréalisme dans la NO autour de Chavez, c'est 1934. Et donc, vous voyez, je dirais, il y a à la fois des décalages, il y a ce qui a été indiqué comme des contretemps tout à l'heure par le premier intervenant, et d'autre part, il y a, d'une certaine manière, des cohérences et des visées et des menées qui vont progressivement tenter de se rejoindre, bien qu'il va y avoir au sein de ces mouvements un respect considérable des personnalités, des différences des personnalités, et à la limite, je dirais, des formes d'expression esthétique. Et ça, je vais y venir à travers Jacquemin très rapidement. Une des dernières remarques que je voudrais faire par rapport à cela, c'est, et en citant cette fois Nouget, qui est la figure premier plan du surréalisme belge, c'est la vision qu'il avait du surréalisme, qu'il considérait comme un état d'esprit bien plus qu'un courant littéraire fondé sur un ensemble de canons qui devait être suivi par ceux qui participaient au mouvement. Et il écrivait ceci en 1947, il dit « Le surréalisme qui fait long feu, en tant que doctrine autonome, en tant que méthode spécifique, n'existe pas. » On est en 1947. Il a toujours pensé cela, Nouget. Mais il ajoute la chose suivante, qui est fort intéressante, il dit « Mais fait historique, ce feu illumine encore le paysage intellectuel jusqu'à l'horizon. » C'est ça qui est intéressant, de voir de quelle manière il retient ce que le surréalisme, à proprement parler, a tenté de mettre en place dans les années 20, dans les années 30, et de retenir que, en définitive, si en tant que courant ou en tant que, en tant que quelque chose qui est clairement identifié n'existe pas, reste ce feu, c'est-à-dire cette passion, et on va retrouver tout cela chez Jacquemin, c'est quelque chose qui rayonne jusqu'à l'horizon. C'est dans ce sens, je dirais, qu'on peut parler du surréalisme comme un phénomène de contamination qui va toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs contemporains. L'autre chose que je voudrais ajouter également à cela, c'est ceci. Ce qui me frappe, c'est que, à un niveau plus précis, d'une certaine manière, c'est comment Nouget refusait catégoriquement l'image d'un mouvement se confondant, et là je cite Marianne, automatiquement avec l'anarchie, le désordre mental et formel, la mystification, l'escroquerie et le saugrenu. Donc, on n'est pas tout à fait dans les définitions ou dans les perceptions que l'on peut avoir du surréalisme. Et donc, là, il y a des prises de position qui sont relativement très claires. Et le plus jeune du mouvement surréaliste connu, qui est Marianne, donc de cette génération du surréalisme de Bruxelles, n'hésite pas par ailleurs à faire remarquer « Il n'en reste pas moins que le climat de nos rencontres était le plus délié, le moins pesant, le moins pompeux qui fût, si bien que l'on passait aisément et comme de plein pied de la note grave au fou rire. » Ce qui est important par rapport à Jacquemin, j'y viens, je vais y venir tout de suite. Ce qui me frappe également, je dirais, c'est que ce va-et-vient entre la note grave et l'humour, en définitive, retient l'attention de Marianne d'une manière telle qu'il formule déjà une critique à partir précisément de cette possibilité du jeu de l'humour dans la critique littéraire. C'est extrêmement important. Il dit la chose suivante, l'humour n'était pas encore tout à fait sorti du purgatoire. C'est vrai et c'est pas vrai. À la fin du 18e, début du 19e siècle, quand on regarde le mouvement, c'est un mot qui est exagéré, qui est cité entre guillemets par Olivier Schaeffer, quand on regarde le mouvement romantique allemand, l'humour a été pris réellement comme étant un moyen, mais bien plus qu'un moyen, de critique littéraire, et d'une certaine manière a été affirmé comme étant une possibilité pour pouvoir parvenir à formuler quelque chose qui allait contre la morale, qui visait à n'établir aucune leçon théorique. Ce n'était pas, je dirais, une volonté, par ailleurs, de considérer l'humour comme étant un divertissement rassurant, bien au contraire, mais de considérer l'humour comme quelque chose qui peut engendrer un désordre au sein du monde. Quelque chose qui est extrêmement important. Vous allez voir pourquoi, je dirais tout à l'heure, concernant Jacquemin. Et donc, je dirais, l'humour comme pensée iconoclaste, ou plus ou moins comme pratique iconoclaste, était quelque chose qui était considéré par les romantiques. Ce n'est pas par hasard que les surréalistes s'y sont référés très largement. Bref, j'en viens à Jacquemin et Fantômas. Toute la démarche poétique de Jacquemin inscrit cette dualité, cette attitude ambivalente face à la création poétique et artistique. Ces textes vont d'une intensité grave à une ironie parfois féroce, qui n'est pas sans teinter d'humour, parce que l'ironie et l'humour, c'est deux choses. teinté d'humour de nombreux de ses poèmes, bien que cette ironie, surtout cet humour, ne se découvre jamais au premier degré. Ce qui est extrêmement important, parce que chez Jacquemin, il y a presque un moment d'attente entre l'humour ou l'ironie que l'on retrouve dans ses textes et le moment où on réalise, en raison précisément de cette ambiguïté, de cette ambivalence entre cette note grave et cette ironie, parfois légère, parfois profonde, ou cet humour qui n'est jamais particulièrement léger chez Jacquemin, si ce n'est lorsqu'on le rencontrait, lorsqu'on discutait avec lui, parfois il y avait des mots d'humour qui étaient absolument effrayants. Mais d'abord, je voudrais rappeler rapidement, c'est sur cette tonalité-là, je dirais, entre note grave et note légère ou ironique et d'humour, que je voudrais travailler sur cet auteur qui a participé au mouvement Fantômas dès le départ. Je rappellerai très rapidement les choses suivantes. Fantômas est lié de très près à Cobra parce que des gens comme Joseph Noiret, des artistes comme Van der Kam, qui n'a pas fait partie à proprement parler de Fantômas, mais qui était extrêmement proche de Jacquemin. Jacquemin a écrit un ouvrage sur les travaux de Van der Kam. Ces gens de Fantômas, ce groupe qui était sept, ils se sont appelés les sept types en or, ces gens avaient quelque chose d'en commun qui était précisément de jouer sur cette note grave et sur cet humour ou cette ironie de façon permanente. Or, le lien qui peut être fait du point de vue des rapports, Marcel Avrène appartenait au mouvement surréaliste du Hainaut. Il était un des proches de Chavet. Il crée avec Noiret et avec Koenig en 1953 la revue Fantômas. Il faut rappeler, je pourrais rappeler toute une série de choses ici concernant, par exemple, Koenig était à Montréal pendant une bonne période au début des années 50 et a participé avec plusieurs auteurs qui ont fait partie du mouvement des automatistes ici, connaissait très très bien le milieu. Je me souviens d'en avoir parlé très longuement avec lui. Il connaissait plein d'artistes, il connaissait très bien Giguère.
Et chez Arta, c'est ça.
Oui,
50.
Pardon.
Il a publié chez Arta.
En 50, exactement. Et donc, tout ça, ça se jouait, je dirais, dans des relations transatlantiques. Ce n'est pas par hasard. Encore une fois, je dirais, on n'était pas dans les marges. Et on était dans des dynamiques qui se jouaient au niveau international et, je dirais, de premier plan. Car Fantômas, en relisant et en revoyant les choses pour préparer cette conférence, j'ai été frappé de voir à quel point ce mouvement, et cette revue, cette dynamique qu'ils ont créée avait un rayonnement européen et international extrêmement important. Et c'est absolument étonnant de voir, je dirais, les artistes et les écrivains qui ont participé à cette revue. Je reviens donc tout de suite sur Jacquemin. Il faut rappeler que Jacquemin, un certain nombre de choses qui sont fondamentales pour pouvoir comprendre l'œuvre de Jacquemin, il faut rappeler que Jacquemin est né en 29, qui à 10 ans quitte avec son père et sa mère la Belgique pour Londres, puisque son père avait fait l'expérience de l'occupation allemande pendant la Première Guerre mondiale, et il n'attendait pas répéter cette expérience-là. Jacquemin, à 10 ans, tombe dans un collège de jésuites et émit directement l'anglais, et va étudier dans ce collège jésuite pendant 3 ou 4 ans, et après, il est transféré dans un collège protestant qui va achever, ni plus ni moins, sa formation d'adolescent et de jeune homme, puisque lorsqu'il quitte l'Angleterre, il a déjà pratiquement 20 ans, et il y a une formation assurée dans le domaine des lettres. C'était quelqu'un qui lisait énormément, aussi bien de la philosophie, j'y reviendrai, que la littérature anglaise, et il va faire carrière dans une société d'acierie de Liège, une des grosses sociétés d'acierie de Liège, comme traducteur. Il va quitter son poste, enfin, il va prendre sa retraite en 1984. Donc, pour résumer cet aspect-là du personnage, ce qui est important, c'est qu'il est à l'anglais. Les premières œuvres qu'il écrit, il les écrit en anglais. Elles ne sont pas publiées, elles sont consultables, mais elles ne sont pas publiées, et je pense que Jacquemin lui-même ne voulait pas publier ce type de texte. Deuxième chose qu'il faut retenir par rapport au personnage de Jacquemin, c'est que très tôt, quand il rentre en Belgique, il rencontre Joseph Noiret, qui va être un des fondateurs de Fantômas. En 50, le moment où il fait son service militaire. Et Noiret l'initie et l'introduit auprès de l'ensemble des auteurs qui sont associés au mouvement surréaliste en particulier, mais pas seulement. Fantômas, le groupe Fantômas, je l'ai dit tout à l'heure, appartient à ce que l'on nomme la Belgique sauvage. Le premier mot, la phrase qui ouvre le texte, ou plutôt la première des quatre conférences qu'il a fait sous le titre « Le poème exacerbé », Jacquemin écrit la chose suivante, « Je suis le membre le plus tranquille de la Belgique sauvage ». Fantômas, donc je l'ai dit, n'est pas étranger, bien au contraire, au mouvement surréaliste. Bien au contraire, parce que beaucoup de surréalistes, en définitive, vont publier dans leur revue Fantômas. Il y a eu 164 numéros de Fantômas, et plusieurs surréalistes vont publier. Donc, il y a là, je dirais, une espèce de diffusion. Et quand on regarde, je dirais, les lignes de force qui se construisent autour de cette revue, à travers, je dirais, les personnalités comme Marcel Avrenne, Joseph Noiret, je l'ai indiqué, les frères Picré, Théodore Koenig, Paul Bourgoigny, Pierre Putmans, qui est beaucoup plus jeune, et Jacquemin lui-même, on constate à quel point ces gens étaient bien informés sur tout ce qui se faisait dans la littérature internationale, et plus encore, ils étaient, je ne dirais pas, ça n'a aucun sens de dire à la pointe, ça n'a vraiment aucun sens, mais quand même, ils étaient très informés, et la revue Fantômas va publier des auteurs pour la première fois, parfois, en français, comme Pound, comme Cummings, comme Gottfried Benn, comme Wallace Stevens, Beckett, Borges, Grach, et bien d'autres. Et donc, elle était parfaitement au point. Maintenant, on voit, je dirais, à travers les textes, à travers les auteurs que je viens d'indiquer, à quel point elle avait un côté éclectiste, c'est-à-dire que jamais elle ne pratiquait une politique de fermeture. Alors, quelles sont les caractéristiques du groupe Fantômas? Une première caractéristique de l'esprit Fantômas, que rappelle Jacquemin lui-même, c'est que rendre possible des formes d'expression hors de toute contrainte esthétique. Deuxièmement, ne pas chercher à se distinguer en voulant se démarquer à tout prix par rapport aux autres courants littéraires et artistiques, par exemple, ne pas produire de manifestes. C'est faux, ils ont produit deux manifestes, mais deux manifestes assez insignifiants en réalité. C'était des contre-manifestes, c'est-à-dire des manifestes qui n'étaient pas contre ceci, mais plutôt c'était des manifestes qui participaient de cet esprit ludique, étant donné que ça avait un contenu de manifeste, si je peux dire, mais c'était de l'ironie plus qu'autre chose. Sur l'esprit encore du groupe, les réunions étaient bien plus des rencontres où toutes les opinions pouvaient être émises. Ça, c'est assez intéressant parce que Jacquemin résume, je dirais, tout cet esprit du groupe Fantômas et dit « un non-conformisme poétique ». C'est absolument évident quand vous lisez les textes de Théodore Koenig, je dirais, qui portent les titres, enfin des textes, si on peut parler de cela, on reviendra, je dirais, ce sont plutôt des aphorismes. La loco-émotive, par exemple, ou les aphorismos, ou... Et quand on regarde les textes des frères Picré, qui étaient des frères jumeaux, et même combat, en définitive. Il y avait donc un non-conformisme politique, une originalité ludique non-sensique, c'est-à-dire une volonté d'exprimer un non-sens à travers les textes qui pouvaient prendre diverses formes. Et troisièmement, qui porte moins à l'écart vers les contradictions et la révolution que vers la souplesse du décrochage, de dépossession, d'ironie face au fanatisme, renaissant de tous bords. Il faut se situer au début des années 50. En d'autres termes, il n'y a pas d'allégeance politico-idéologique particulièrement forte. Au contraire, je dirais, il y a un refus d'allégeance. Et quand on connaissait Koenig, quand on connaît les frères Picré ou Noiret ou Jacquemin, on sait très bien, je dirais, que ces gens ne cherchaient pas d'aucune manière quelque allégeance politique que ce soit, idéologique encore moins. Et donc, c'est cet état d'esprit qui caractérisait Fantômas. Et cet état d'esprit-là, Jacquemin, qui était quelqu'un d'extrêmement sérieux, va le transmettre, va le porter Donc, il y a le côté à la fois ludique, et à travers ce côté ludique, l'ironie et l'humour, il y a chez Fantômas quelque chose qui est extrêmement important. Il y a une morale qui est une morale de contestation, de refus, mais en même temps de refus de s'imposer comme étant une marque de référence, si on peut dire, un label politico-idéologique qui pourrait avoir une portée plus large, qui pourrait déboucher sur une critique de la politique, bien que chez Jacquemin, il y a des textes poétiques qui portent le titre « L'État ». Et quand on regarde ce qui sous-tend ces textes-là, on est absolument étonné de voir à quel point, quand on fait le raccord avec l'ensemble des autres textes, à quel point il y a une portée critique. Je viens rapidement à cet esprit et je résume Rachet Jacquemin, qui écrit dans le poème exacerbé ceci. Il dit « À ce jour, il me serait malaisé et sans doute y mettrais-je beaucoup de réticence s'il me fallait définir l'esprit et la substance de Fantômas. » On est en 1990-91. Nous étions tous séduits par le jazz. Nous avions un goût prononcé pour toute littérature originale où se manifestait une totale liberté d'esprit et de pratique, sans toutefois que cette liberté ne soit une provocation ou une polémique systématique. L'aphorisme, le poème court et plaisant, le calembour, l'écriture naturelle nous étaient particulièrement agréables. Et il ajoute un peu plus loin ceci, Fantômas n'a jamais produit un texte fondamentalement sérieux. Il me semble que nous étions trop sains de corps et d'esprit pour nous livrer à la pathologie de l'intellect. De deux propositions, nous retenions joyeusement la plus superficielle. Au reste, Dada ne fut jamais très loin de nous. Alors, si vous voyez bien, je dirais, quand on regarde de quelle façon les choses... Jacquemin, j'ai l'impression qu'il exagère un petit peu la formule ici. Parce que quand on prend les textes de Jacquemin, il y a quelque chose d'une force et d'une profondeur absolument époustouflante quand on se met à réfléchir sur le contenu de sa poétique comme telle et sur ses poésies en tant que telles, et il nous fait réfléchir. Je signale rapidement que Jacquemin a écrit trois recueils. Il y en a un quatrième qui est un recueil qui reprend ses textes des années 50, qui est petit, qui a été publié aux éditions La Différence il y a quelques années, en 2002, je crois, et sous le titre de son premier recueil, qui est La Rose de décembre, et dans lequel on retrouve Particules publiées au Délibule. Vous voyez, je dirais, ça passait d'une maison d'édition et d'un groupe à l'autre, et ça reprend le Coquelicot de Guétry et quelques autres textes. Mais les trois recueils de Jacquemin, c'est Les Saisons, publiées en 1979, il y a 50 ans, et publié aux éditions Fantômas, qui est repris dans la collection de poche chez Labor par la suite. Le Domino Gris, publié chez Audélébule, donc auprès de l'autre groupe. Et le Livre de la Neige, qui était publié à La Différence en 1991. Et il y a ce texte qui est absolument étonnant, de ses quatre conférences à l'Université de Louvain-la-Neuve, et qu'il a fait en 1991, donc quelques mois avant son décès d'un cancer, le poème exacerbé qui a été publié en 1992. L'œuvre de Jacquemin, maintenant. Bon, j'ai insisté un peu plus haut sur le fait que la poésie de Jacquemin était une poésie réflexive, ou du moins je l'ai signalé très brièvement, une poésie de pensée, ce qui est le cas. C'est qu'elle s'est nourrie de lectures philosophiques et bien plus encore de la littérature, depuis les classiques jusqu'au moderne. C'est quelqu'un qui a lu de façon absolument étonnante. C'est quelqu'un qui avait une culture, et moi, je dirais, ça m'avait fort étonné, le détail avec lequel il pouvait aller dans une œuvre, qu'elle soit une œuvre d'un anglais non traduit en français, parce qu'il maîtrisait parfaitement l'anglais, et combien d'autres œuvres dans d'autres langues. L'attention qu'il porte à la philosophie s'est très tôt imposée chez lui, et va marquer en définitive l'ensemble de son œuvre jusqu'à la fin. Il vaut la peine de citer par exemple un passage du poème exacerbé. Il écrit ceci, il dit « Vers l'âge de 13 ans, je me promenais rarement sans une petite édition des pensées de Marc Aurèle et d'Épictète. Les stoïciens auront été mes premiers compagnons, mes premiers maîtres en philosophie. Cette inclination précoce marque l'orientation de ce qui devait plus tard prendre corps dans des attitudes littéraires et philosophiques concrètes. Ces deux penseurs contribuèrent à affirmer ma propension à la pensée pragmatique qui s'inspire d'une expérience directe du monde et qui se transforme en un muscle qui agit, qui résiste et devient volonté plutôt que science. En Marc Aurèle, je voyais une auteur déçue, mais sa pensée ne haïssait point. Et il ajoute ceci, « Ces penseurs me permirent la découverte de la formule, de la réflexion ramassée, de l'annotation brève, qui dispense des développements fastidieux. J'aimais ces formules portatives qui entreraient aisément dans le pactage d'un fantassin. » Je vais maintenant vous donner exemple de ces textes poétiques qui ont toute cette dimension à la fois grave et en apparence légère, tiré du Domino Gris, qui est le deuxième texte, qui est le deuxième recueil de Jacquemin, publié en 83-84, et pour lequel il va avoir le prix de la Communauté française. Il écrit ceci, « Le dilemme est réglé de façon à ce que rien n'altère l'impossibilité de conclure. L'être et le néant n'ont aucun recours contre le scandale de n'être que prononcé. Cette impéritie naturelle est une invitation à la discrétion. Le mieux est de se taire, comme le chanteur affine un soupir. Ou encore, je ne puis m'en remettre à la rigueur du phénomène ni au laisser-aller de l'essence. Chaque fois que je donne mon approbation à l'intelligible, une obscurité nouvelle se refait. L'indéterminé fait écho au verbe, je n'ai pour entendement qu'une nomenclature de faits inévitables. Ma conscience est la conclusion de cette invraisemblance. » Il disait la chose suivante, il dit, bien souvent j'ai commencé mes textes en écrivant le dernier vers, ou du moins la dernière. Vers, comment appeler cela? Si on les prend un par un, on peut considérer que dans chaque cas on est en présence d'un aphorisme. La forme de pensée ramassée, proche ou se confondant avec la forme de l'aphorisme, n'est pas sans rappeler, bien sûr, chez Jacquemin, d'une part, plusieurs proses sous forme de pensée, chez Reverdy, je pense en vrac, mais on pourrait citer plusieurs autres recueils, ensemble, textes ou livres de Reverdy, mais également les textes de Nouget. Et il va sans dire mes inscriptions de Skutner. Skutner était quelqu'un qui a écrit essentiellement des aphorismes, qu'on peut tenir pour des textes poétiques, mais c'était essentiellement des aphorismes. Et donc, cette pensée ramassée, cette volonté de vouloir tenir un texte de plus près, est quelque chose qu'il hérite, quelque chose que Fantômas a hérité du mouvement surréaliste, tant aussi bien français, parce que je tiens Reverdy pour un des surréalistes les plus puissants du XXe siècle, mais pas seulement, parce qu'il est rayonné, je dirais, dans plusieurs directions, et certainement, Reverdy n'a jamais été renié, ni par la première, ni par la seconde génération surréaliste française, et pour en avoir débattu longuement avec Annie Lebrun, il était certain, je dirais, que Reverdy est quelqu'un qui tient une place absolument décisive. Or, quand on regarde l'évolution de la pensée et de la poésie de Jacquemin, il est très clair que cette évolution est marquée par une tradition de l'aphorisme dont on a dit qu'il était une affaire belge. Je ne sais pas, je dirais, si c'est quelque chose qui a valeur de référence, j'en suis pas très convaincu. Toujours est-il qu'effectivement, l'aphorisme a été quelque chose qui a été fort utilisé. Alors, chez Jacquemin, chaque texte que vous prenez, quel que soit, je dirais, le texte, que ce soit le livre de la neige, les saisons ou le Domino Gris, dans tous les cas, le texte est construit autour, je dirais, de formules très ramassées et où, comme il le disait, je commence par le dernier vers pour pouvoir faire en sorte de construire et d'avoir toujours ma chute, d'avoir toujours ma conclusion, si je puis dire, de mes textes. Et donc, il est notable que chez Jacquemin, cette dimension-là prend une part importante et c'est quelque chose qui a à voir, bien sûr, beaucoup avec la pensée philosophique de Jacquemin, avec la fréquentation de Jacquemin, avec la fréquentation qu'il a faite des textes de philosophie, et je dirais tout ce qui lui tombait sur la main. Alors, dans la suite de cela, je pourrais dire qu'il y a une attitude par laquelle le moi tente de s'absenter. C'est assez étonnant de voir que si dans le courant surréaliste, le moi a joué un rôle important, enfin, le moi était quelque chose qui avait une valeur symbolique qu'on tentait de relever avec force, chez Jacquemin et chez le groupe Fantômas, chez les auteurs du groupe Fantômas, ce qui est évident, hein, c'est qu'on avait tendance à atténuer ce moi, cette expression, l'expression lyrique à proprement parler. Il n'y a pratiquement pas de texte lyrique au sens strict du terme chez Jacquemin. Mais au premier degré, disons. C'est un peu plus compliqué que cela. Il faudrait pouvoir en débattre longuement. Mais il y a un refus d'exaltation du moi qui est constant dans les œuvres de Jacquemin et qu'on peut retrouver très facilement chez un auteur comme Nouget, comme Goumans, comme Lecomte et comme bien d'autres dans le mouvement surréaliste belge. Et même dans les mouvements surréalistes belges, puisqu'ils sont deux. Alors, refus d'exaltation du moi et en même temps refus de s'affirmer comme auteur. Il y a une volonté de se nier, de se dénier comme auteur. Il y a une volonté réelle. Il y a un refus de l'œuvre chez Jacquemin, comme il y a eu un refus de l'œuvre chez Nouget, exprimé de manière très très forte. Je rappellerai ici, juste pour le besoin de la... pas de la démonstration, mais je dirais pour montrer l'esprit dans lequel ces gens travaillaient. Je rappellerai la lettre de Nouget à Breton qui est datée de 1929. Il lui écrit ceci: « J'aimerais assez que ceux d'entre nous dont le nom commence à marquer un peu l'effacent. » C'est très clair comme position, c'est-à-dire que c'était et Goumans et Lecomte. Il y a un refus de l'œuvre chez Lecomte. Et Nouget, il y a un refus de l'œuvre et en même temps, il y a un refus de vouloir s'identifier à un ponte, à celui qui tient haut le drapeau d'un courant littéraire ou artistique quel qu'il soit. Il y a une volonté, il y a un refus de l'œuvre et ça va même plus loin que cela. Il y a une volonté réelle de nier sa propre œuvre. Et vous allez voir que dans les textes de Jacquemin, je sais que je suis un peu long, mais j'en avais pas mal à dire, il dit... chez Jacquemin, c'est absolument évident, je dirais, cette question-là. C'était quelqu'un qui refusait les tréteaux, c'était quelqu'un qui refusait de monter sur scène, c'était quelqu'un qui refusait d'être présent en public, ou du moins se manifester avec une telle discrétion. Théodore Koenig, c'était une autre chose. C'était toute une autre personnalité. Bien. Et dit, Jacquemin écrit la chose suivante, dans cet esprit-là, et qui est... correspond exactement à ce qu'il était. Du moins, c'est comme ça que je l'ai vu. Et ce qu'il dit est très proche, est tellement proche, je dirais, de ce qu'il était. Il dit, j'exige la plus entière circonspection dans l'expression des sentiments. Bien plus, je ne suis pas certain de tolérer la littérature, dont l'inconvenance effleure chez les auteurs les plus inadmissibles. Je ne puis lire sans désapprobation et même sans douleur une phrase déformée par la passion ou contrariée par une pensée approximative. Ou encore, j'évite le style, la couleur me fait fuir, toute fioriture me met hors de moi, la limpidité affectée aussi, la brièveté et la concision sont avant tout une affaire de courtoisie, mais aussi un moyen de déceler promptement la fausseté d'un propos. Je pense que c'est important. C'est extrêmement important par rapport à une littérature contemporaine, actuelle, je dirais, qui bien souvent est particulièrement débridée. Et donc, chez Jacquemin, il y a cette volonté de précision et surtout, je dirais, volonté de ne pas tenir des propos hors propos, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il tente de tenir. D'où cette impression bien réelle à la lecture de ces textes, celle d'un dessèchement de la parole poétique, afin de la faire parler au plus près du réel. Une parole qui est dépourvue d'illusions face aux offenses de la perception, comme s'il voulait rapprocher le langage de ses sources tout en sachant l'entreprise impossible. Sur un plan parallèle, il allait jusqu'à construire des tables d'occurrence, des mots pour éviter de repasser sur des terres déjà bien balisées. C'est assez fascinant J'ai vu dans les, dans les archives, hein, ils construisaient littéralement des tables où les occurrences, elles étaient complètement oblitérées. Et on peut le constater immédiatement. Je vais lire ici deux textes qui signalent bien la manière dont ils travaillaient. Et vous remarquerez que vous ne trouverez pas deux fois le même mot. Ou si vous le trouvez, c'est parce que c'était incontournable, impossible à contourner. La chose semble éprouver quelque gêne à être ce qu'elle est. Les signes dont elle se couvre pourraient indiquer une sorte d'incompétence parmi les atomes. Dans le domaine du temps et dans celui du mouvement, cet embarras se manifeste par des tractations maladroites. Sans doute annonce-t-elle déjà la phrase trop meuble pour retenir une signification. Ou encore, si le verbe était une méthode universelle, on aurait quelques raisons de craindre pour l'air et le vent. On aurait besoin d'hypothèses pour fonder l'atmosphère. Il faudrait que l'on appuie la brise sur des définitions. Sans doute, est-ce afin de mieux agir que les choses se sont mises sous la protection de l'indicible. Et il écrit un peu plus loin ceci. Lorsque je parle, je me demande comment l'univers a pu en arriver là. Jacquemin était attaché à cette question du temps et du mouvement, à celle de comment rendre l'idée de durée. Par rapport au ton de ce que je viens de lire, on y découvre plus que jamais l'ironie, l'humour retenu sous un exercice, mais bien plus qu'un exercice, que l'on pourrait qualifier de grave. Il écrit ceci, et on va retrouver l'estomac en tir, comment, un ressort, oui, tout à fait. Écoutez bien ça. Même lorsqu'il est à l'arrêt, l'escargot est sur le point de s'arrêter. En mouvement, il est encore sous l'effet de sa dernière station. On peut raisonnablement établir un rapprochement entre lui et les comètes, très lointaines, qui paraissent immobiles. À cette exception près, que l'escargot est un météore repu. Il ne traverse pas l'espace, il le digère. Une poésie qui s'attache, je l'ai dit tout à l'heure, à une pensée philosophique, ou du moins qui s'attache à une réflexion sur la philosophie. Jacquemin a fréquenté pendant 30 ans tout ce qui s'appelle de texte d'ontologie. Ça a été quelque chose qui l'a tellement tenu de près, qu'il pouvait écrire dans son journal, qui n'est pas publié, qui ne sera pas publié avant bien des années, je crois, en raison de caractère ironique et de ses commentaires très précis sur les milieux dans lesquels il évoluait, et le milieu littéraire, les milieux littéraires au sens large du terme, et je dirais même plus largement les milieux artistiques. Et donc, c'est un journal de près de 3000 pages qui est pour l'instant pas publiable. Toujours est-il, il écrivait dans son journal que la chose qu'il regrettait le plus, mais c'était les premières années de son journal, la chose qu'il regrettait le plus, c'était qu'il faisait le calcul et dit « Les œuvres de Heidegger ont 68 volumes prévus en édition en allemand. » Il dit « Nous sommes environ au 16 ou 17e volume. » Il dit « Au rythme où il publie, j'aurai jamais l'occasion de lire l'ensemble de l'œuvre. » Il dit « C'est peut-être pas la pire des choses. » Bien. Une poésie, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est rapprochée, qui s'est tenue de près avec la pensée, avec la philosophie. Et toute sa création en témoigne très clairement. Il écrit à peu près à ceci dans le poème exacerbé, « Se consacrer à l'ontologie, c'est se baigner dans la beauté de la question la plus difficile, mais aussi la plus évasive et la plus vaine, c'est-à-dire la question de l'évidence de l'évidence. » Jacquemin mettait en avant le mécanisme de l'extase face au monde, et en premier lieu, face à la nature. Dès lors, sa démarche n'était pas discursive, et aucun mouvement de pensée ne pouvait fournir une preuve d'absolu. Il écrivait encore ceci dans le poème exacerbé, cette fois, « Dans les marges de l'être, la vérité ne serait qu'une conclusion hâtive, voire un retrait. » C'est sans doute sous l'aspect le plus décisif de cette poésie, c'est sans doute l'aspect le plus décisif de cette poésie, du moins dans ces trois grands, ou les deux derniers grands recueils. Elle ne s'est jamais épargnée d'approcher cette pensée, la pensée philosophique qu'elle éprouvait en tant que passion, non pas en tant, je dirais, que méthode d'analyse ou quoi que ce soit, non, en tant que passion. Et dit plus, il écrivait ceci, plus que la recherche systématique, c'était surtout la pulsion philosophique qui me retenait. Cette pulsion ne se distinguait pas radicalement de l'émotion poétique, ne se manifestait pas sous la forme d'un questionnement. Je humais l'essence d'une question qui surgissait. Comme on respire un parfum, comme on subodore un dessin secret, je regardais la question de biais et n'envisageais pas d'y répondre. Je ne puis me départir de l'opinion que toute question soulève relève d'une distraction singulière de l'âme. Et je cite, ça va être la dernière chose que je vais citer, je m'arrête là parce que j'ai déjà été très long. Il ne cesse de manifester cette méfiance à l'endroit de tout ce qu'il donne comme un résultat de tout ce qui se donne, pardon, comme un résultat de la pensée, l'affichage de vérité définitive. Et par rapport justement à la pensée heideggerienne, voyez bien le raisonnement qu'il fait et suivant. Il n'est pas en s'en rappeler d'autres par ailleurs. Dans le secret de son étude, le penseur soupire après le panache de la victoire, l'arc de triomphe d'une vérité quelconque. Que de dérèglements du cœur et de suffocants règlements de compte pour aboutir à une proposition vraisemblable que de délire étouffé dans la proclamation que l'être est ceci ou cela. Au terme d'une grande et sinistre histoire d'amour ontologique, Martin Heidegger s'en sortira par cette atterrante tautologie, à savoir que l'être, il cite, l'être, c'est l'être. La tentation de totalitarisme par la méthode intellectuelle n'est pas une nouveauté. Vous voyez déjà toute la critique politique et idéologique de l'époque dans laquelle il s'inscrit. La tentation, je répète, la tentation de totalitarisme par la méthode intellectuelle n'est pas une nouveauté. Le désir de pétrifier une vérité l'emporte souvent sur le souhait de faire fonctionner harmonieusement cette vérité. Il est des vérités qui s'achèvent en colonnes de cadavres. Voilà l'esprit dans lequel il va s'inscrire dans l'ensemble, je dirais, des œuvres majeures qu'il va nous donner. Il écrit... Par ailleurs, et dans ce même esprit-là, par rapport à cette critique-là, dans le poème exacerbé encore une fois, je me sens invinciblement attiré et même séduit par toute nouvelle analyse. Mais aucune ne me paraît solide pour me convaincre durablement. Souvent, j'ai eu la conviction qu'un homme convaincu finit tôt ou tard par assommer son voisin. L'écrivain, et là je citerai le domino gris, l'écrivain est un homme trop faible pour mourir. Sa vie est une anémie perfectionnée. L'épuisement lui tient lieu d'acharnement. Il vit à la faveur de son atrophie. Et chacun de ses propos suscite une imprécision offensante. C'est en lui que le doute célèbre son jour de fête. Jacquemin, c'est le poète du doute, c'est le poète de l'ironie, c'est le poète qui ne pouvait s'avancer sur des terrains assurés par quelques vérités. Et en ce sens, il reprenait quelque chose qui appartenait à ces courants de la critique, de ces mouvements de refus du XXe siècle, qui va du dadaïsme au surréalisme et qui va se retrouver à travers des courants comme Cobra et bien d'autres, et Fantomas, dont il a fait partie, et dont il dira « Sans Fantomas, je n'aurais été rien ». Dans sa bouche, ça voulait dire que être ou ne pas être avec ou sans Fantomas, ça n'avait pas beaucoup d'importance, mais il ajoute ceci, il dit « Fantomas m'aura évité de devenir écrivain ». Merci.
Alors, merci à Pierre-Yves Soucy de nous avoir parlé, de nous avoir introduit à l'état d'esprit Fantomas, un archipel d'aphorismes, mais plus précisément à l'œuvre de Jacquemin, qui travaille à travers des formes ramassées. Il y a une notion sur laquelle on va peut-être revenir qui me séduit et dont j'aimerais qu'il nous parle le plus, c'est d'écriture naturelle. Mais le temps, c'est le temps.